Bienvenue pour ce débat sur les classements avec le You Multirank, avec une question: va-t-il révolutionner les classements internationaux? Et bien sûr, si on parle de You Multirank, il nous fallait les initiateurs, ou en tout cas les concepteurs de You Multirank. Guérôme comprend, donc il n'y a pas de problème. On a une traduction simultanée, hein, si vous le souhaitez. Je vois que Sarah met son casque, mais elle me comprend parfaitement en français. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc nous allons commencer ce débat tout simplement en demandant à Guérôme Federkel du CHE allemand, mais qui opère pour la Commission européenne aujourd'hui, mais il va nous l'expliquer, ça, il va l'expliquer mieux que moi, de nous présenter où nous en sommes sur ce classement You Multirank qui a été initié maintenant il y a un ou deux ans, je ne rentrons pas dans le détail des dates, mais qui arrive en fin de conception, en fin d'expérimentation, et qui, et c'est la question du débat, est-ce que ça va révolutionner les classements quand on connaît la multiplicité des classements qui existent? On peut citer les classements français, et puis bien sûr les classements internationaux. Les Français ont une appétence particulière dans les universités pour le classement de Shanghai, hein, dont on parle toujours, mais il y a aussi le classement de nos amis du Times Higher Education. Et donc j'en profite pour saluer Phil Betty, le rédacteur en chef du Times Higher Education, qui va nous rejoindre après la présentation de Guérôme. Sophie Béjean, qui est ici l'ancienne présidente de l'Université de Bourgogne et qui pilote le comité qui est chargé, un peu, je résume, mais d'adapter You Multirank aux spécificités françaises. Bon, c'est un raccourci, c'est pas que ça. Et par ailleurs, qui est présidente de Campus France et du Centre National des œuvres universitaires et scolaires. Et enfin, quelqu'un qui est toujours très exposé au classement, c'est Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'ESSEC. Alors lui, les classements, il est, je dirais pas tous les jours, mais il a son cockpit et il regarde tous les jours quand même ce qui se dit sur son établissement, parce que les business schools sont dans un univers concurrentiel assez féroce. Donc nous allons essayer de voir avec nos quatre intervenants et en débat avec vous les effets des classements. Et puis, est-ce que la création d'un classement sous l'égide, dans un premier temps, de la Commission européenne, donc indirectement des États, peut changer dans la perception qu'ont les institutionnels, les familles et bien sûr, in fine, les étudiants. Donc voilà, je vous remercie et je donne la parole tout de suite à Guérôme Federkel pour qu'il nous fasse cette présentation. Merci, Guérôme.
Merci beaucoup pour m'inviter à présenter You Multirank aujourd'hui. But now I have to apologize that I will go on in English because my French is not good enough to do a presentation. So this session has a provocative title: Will You Multirank Revolutionize the World of Ranking? Maybe you can judge at the end of this session if and how revolutionary You Multirank may be. And maybe we can also ask our colleague Phil Betty, who is here, if he feels to be a representative of some kind of ancien regime of ranking in the face of You Multirank. So normally, revolutions blow away the old systems. I do not expect and I do not want You Multirank to do this. I think if we want competition in higher education, we should also have some competition among rankings and not a monopoly. But I think You Multirank will have an impact on the ranking discussion, will change the ranking discussion. And I think also You Multirank has not been published yet, it also had some impact on existing rankings. In my presentation, I will demonstrate to you what is new about You Multirank, and in the second part, how You Multirank will work. I still have to speak about the future. The launch of You Multirank, of the first edition of You Multirank, will be in May this year. So I still, I'm sorry about that, cannot present the results of You Multirank to you. Of course, the most interesting thing about rankings are the results. But I hope I can make you curious to see it then in May. So, I think within the last decade, we have witnessed the emergence of more than 10 global rankings in higher education. So then maybe the question, why do we need another ranking, or do we need yet another ranking?
besoin d'un nouveau
système.
We see
that rankings, they are here to stay. They receive a high public attention. They have an impact both on the strategies of universities and they have some policy impacts. We know countries where rankings of higher education institutions have an impact on national immigration policies. So they will be here to stay, though. But why another ranking? We think in creating your multi-rank that up to now the existing rankings have not really helped higher education institutions and have not really helped many stakeholders and users of rankings or of information on transparency information about universities. So the current rankings, they do not adequately reflect the diversity of higher education institutions. I will come back to that later. And in our view, they apply a simplistic methodology, more or less or similar to football league tables. And I think there is the question, can we compare universities, which are very complex institutions, like football teams? So what is new in your multi-rank? First, I think your multi-rank wants to create and provide transparency about the diversity of higher education institutions. The existing, or at least the big international rankings, they include only one type of institution. The internationally oriented comprehensive research university, which represents, according to the numbers or calculations, 3 to 5% of all higher education institutions in the world. I think it is legitimate to concentrate and focus on that, on those type of institutions, but this does not reflect the diversity of higher education institutions. There are very different kinds and types of institutions with very different missions and very different institutional profiles. So we think that there's still a need, an additional need for more or better information to most users on this diversity. So the aim of your multi-rank is to provide this transparency and to make visible the existence of multiple excellences beyond research excellence only, which is the focus of the existing global rankings. There may be world-class teaching universities. There may be universities who are performing world-class in terms of regional engagement or in the international orientation. And all this, well, at least this is our aim, should be made visible by your multi-rank. Your multi-rank, and I think this is the basic characteristic of your multi-rank, is a multidimensional ranking. Multidimensional in two senses. On the one hand, your multi-rank will not only look on research indicators, but will look on a broad set of dimensions of performance, including teaching and learning, research, knowledge transfer, and both the international orientation and the regional engagement of universities. And in the second sense of the word, the concept, the multidimensional ranking, your multi-rank will not come up with a composite overall indicator. So there will be no predefined weights on individual indicators in your multi-rank. There will be a single ranking for each indicator. I will show you afterwards how this will work then in practice. Your multi-rank will be a user-driven ranking. I think we have to take serious the argument that each ranking reflects the conceptual frameworks of those that are producing the ranking. There is no one objective ranking. We think that personalized rankings, which allow the users to rank universities by their preferences about indicators and dimensions, can reflect this position or this insight that there is no objective ranking. This will be implemented by a flexible, interactive web tool, so the publication of your multi-rank will only be as an online ranking.
Sera uniquement effectuée sur Internet.
When I said that your multi-rank wants to reflect the diversity of higher education institutions, this means that your multi-rank wants to include or includes very diverse institutions with different profiles, different missions. So it will be very important to develop an instrument that allows to compare comparable institutions. I think we all agree that it does not make much sense to compare MIT with a small regional teaching institution or to compare an art school with a medical school. So we have to develop a tool that allows us to define and measure comparable profiles, which then in the second step can be compared in your multi-rank, in the ranking. Again, I will show you how this will work afterwards. But this is not very particular to your multi-rank, as many or some of the other rankings. We will combine an institutional ranking of whole institutions, whole universities, and field-based rankings. In the first year, we will start with four fields: mechanical engineering, electrical engineering, physics, and business studies. And our aim is to extend the scope of fields gradually in the years to come. From the beginning, your multi-rank, or the implementation of your multi-rank, has been very much oriented on stakeholders. We had intensive consultations with different stakeholder organizations in the development of your multi-rank and now in the continuous implementation of your multi-rank. We made workshops with stakeholders discussing the relevance of different indicators and things like that. So this is also a very important aspect of your multi-rank, that all the relevant stakeholders from higher education, student organizations, higher education associations, employers, and policy-oriented organizations have been involved in this process of developing your multi-rank. So, of course, the most important thing about a ranking are the indicators. I do not want to go into the details with regard to our limited time. Just want to show you the list. You can also find the list on our website. So we have some indicators on teaching and learning, some only on the institution level, others on the field level too. And what will be, this is one of the, I think, particular new things of your multi-rank, that your multi-rank will include a number of indicators that are based on a survey among students in all participating institutions. We asked students to assess or to give their opinion about their learning experience. And this is, I think, very important information to student users of rankings. For them, the perspective of students, in a way, is a peer perspective in the ranking. Then we have a number of indicators on research, those which are marked here with a star. Star are based on bibliometric databases. The others are coming from different data sources. Then a number of indicators on knowledge transfer, income from private sources, but also issues like revenues from continuous professional development. Then the international orientation, very more traditional indicators looking for exchange and mobility and the international activities with regard to research and publications. Regional development, this has turned out, not surprisingly probably, to be the most difficult dimension in your multi-rank. You see already the number of indicators smaller than the other dimensions, and we have faced a number of problems. On the one hand, with regard to the availability of data on those indicators, many universities could not disaggregate some data on this regional aspect, and we have seen that the aspect of regional orientation does not have the same relevance for all institutions. Of course, internationally oriented research universities, they have a stronger focus on their international activities and not so much on their regional activities. So we have those five dimensions, and all in all, and depending on the field or the institutional level, we have 20 to 25 indicators in your multi-rank. So how will your multi-rank work? The core of your multi-rank will be the interactive web tool, which reflects those specific characteristics and this specific approach of your multi-rank. Covering first diverse institutional profiles, not only research universities, and connected to this is the need to compare like with like. It will be multidimensional and user-driven. First aspect, covering diverse institutional profiles. The first publication of your multi-rank will include more than 800 higher education institutions, out of which more than 500 actively participating by providing a whole set of indicators, plus, for example, participating in the student survey. And in addition, your multi-rank will include more than 300 top research universities, which we identified on the basis of bibliometric indicators, And for them, we will show the bibliometric and patent indicators, which are based on databases which are publicly available.
Basés sur des bases de données,
Among those 800 are international research institutions, universities as well, as regional institutions which are focusing on undergraduate education, comprehensive as well as specialized institutions, small and big universities, old and new universities. So there is a need to identify comparable institutions to provide meaningful comparisons and a meaningful ranking. And this is the second aspect of comparing like with like. U-Multirank will include a number of empirical profile or mapping indicators which describe the profiles of the institutions. They do not rank the institutions in terms of better or worse performance, they simply describe them as being similar or different. For example, the size, the age, the scope of fields, the highest degree awarded, research intensiveness, and their orientation towards international or rather regional activities. This is very strongly related to a project called UMAP, which some of you might know, which has also been funded by the European Commission, which was the attempt to develop a European classification. This is the English notion of classification, not the French classement, just a description of institutional profiles, and there they developed a set of indicators, and U-Multirank will apply a subset of those indicators to have this comparing like-with-like approaches. This can be done in the web tool in two ways. Either the user can, him or herself, define a particular institutional profile by selecting particular characteristics of those mapping indicators, for example, selecting a small, new, regional-oriented teaching institution, and then he will get a list of all institutions that apply to this profile among the U-Multirank sample. Second way will be to start with a particular institution, for example, selecting the University of Munich. Then the user will see the empirical profile of the University of Munich with regard to those mapping indicators, and he will see how many and which universities are similar in terms of those profile indicators, and then again the user will get a ranking among those subgroup of universities with the same profile. It will be multidimensional. There will be, after selecting this profile, the user will see a default table, which will show three selected indicators per dimension, which will mean 15 indicators in total. Then the user can have a look on all indicators of a dimension by expanding the table, and again, there will be no composite score. There is an option to sort the university by an individual indicator, but not by total performance. This is again our reflection of the view that we do not want to have composite indicators, because we think composite indicators, on the one hand, they blur the profiles and strengths of individual institutions. They can lead to some misleading averages of indicators of poor performance in some indicators and top performance in other indicators. And we see, if we look on the weighting schemes that are applied in existing rankings, there are neither theoretical nor empirical reasons to attribute a particular weight to a particular indicator. Why 40% on reputation and 20 on publications and not the other way around? We think that using composite score in a way patronizes the users of rankings, and this decision about the relevance of the indicator should be left to the users. As different users, they have different preferences with regard to indicators. They have different ideas about quality and good performance. Students may have different ideas about quality of higher education institutions that academic researchers have, but even students are not a homogeneous group. Some students, they want to find for themselves a small, for example, a smaller university with close contacts to teachers, while other students may want to go to a big internationally oriented big university with a broad range of fields. And U-Multirank allows them to find the best universities for them. This means, in our approach, there is no the best university and no number one.
de meilleures
universités. It will depend on the indicators. Some universities will rank high on some indicators and not so high on other indicators. And this will make visible the particular profiles and the strengths and weaknesses of institutions. This will be done in the web tool. As I already mentioned, the first step will be to select a particular institutional profile a user is interested in. And then, in the second step, the user will select the indicators for the ranking according to his own preferences. And in the third step, he can sort the ranking results according to his preferences. So, in a way, this reflects the idea that quality lies in the eye of the beholder. The web tool is still under construction, and I have to say sorry, and in particular, as some of our competitors are here, it is still top secret. But I want to give you some illustration on what about the features, the basic features of the web tool, with the example of our national CHE ranking in Germany, which informed you multi-ranked. I will give you some screenshots of our CHE ranking, but I can tell you multi-rank will look much better, I have to say, and will be more interactive than CHE ranking has been. So this will be the homepage of your multi-rank.
La page d'accueil de your multi-rank.
And then there will be different tracks, more for academic and expert users and for lay or student users. So it will take into account different degrees of knowledge about higher education and will be user-specific. So this is a screenshot from CHE ranking. After selecting a field, the user gets a default table. Here you don't see numbers, but some symbols. And this is also something which your multi-rank will apply. Your multi-rank will not calculate a league table from number 1 to number 500. As in the football tables. Instead, universities will be ranked on each indicator into 5 different groups. This avoids, in our view, to misinterpret small differences in the scores of indicators in terms of big differences or differences in quality. If we look on league tables, we see that in many cases only small differences in the score of an indicator can lead to big differences in league table positions. So your multi-rank will have 5 different groups that will be marked by different symbols. The default table, this will be the same in your multi-rank, will be sorted alphabetically. That's why Aachen in Germany here is always on top. It took some years for the regional newspaper in Aachen to realize this and not telling that the readers that Aachen is the best university in Germany, but after some years they got it. But then, of course, the table can also be sorted by an individual or single indicator. And this makes it really interactive. The user can then change the default indicators. He can select indicators according to his own preference. In CHE ranking, this is, for some reasons, limited to 6 indicators. In your multi-rank, the user will be completely free to select the indicators according to their own preferences. And then this leads to a personalized ranking showing the performance of the universities on those indicators that are particularly relevant for the individual user. You see here that some universities perform very well on exactly those. And this is, empirically, at least in our national ranking and our first insights are that it will be similar in your multi-rank, that universities can rank very different according to the selection of indicators. If we select indicators on research, other universities rank higher than if we select indicators on teaching or on any other dimension. So this instrument can really provide insights into the profiles and different strengths and different weaknesses of institutions. So the launch of your multi-rank will be on the 13th of May. As I said, results on the institutions and on the 4 fields will be published. All results will be freely available on our website. And I think this is particularly interesting and important for those institutions that actively participated. They will receive a package with additional information. They will, on the one hand, in advance receive, of course, an overview on their indicators and their rank groups so that they are prepared on the day of the publication. And they will receive a detailed detailed analysis of their student survey data compared to the full sample. They will get an at-glance graphical illustration of the institutional results and some background information. So I think this is very important because we think that U-Multirank should also be able to provide useful information for institutions to benchmark against others or with other university higher education institutions of a similar profile. And this is, for example, one of the reasons why an association of leading European technical universities, CESAR, they are a partner of U-Multirank because they decided that they want to use the data, the indicators, and some background data to benchmark among their member institutions. I think there are about almost 40 leading European technical universities. So this is one of the benefits for institutions that U-Multirank can offer those benchmarks. Options, and I think I have been able to demonstrate that U-Multirank also has a benefit to students who want to inform about the best universities for them, not simply the best university in terms of some general ideas or based on reputation. So for more information, you can either visit the website, follow our social media, or if you have any concrete questions, you are welcome to contact us by email. So thank you very much.
Merci, Guéropo, pour cette présentation. J'invite Sophie Béjean, Phil Betty et Jean-Michel Blanquer à me rejoindre. Avec Sarah Piovesan, first question. What do you think about this new competitor for you?
Ce nouveau concurrent.
Parce que le classement du Times Higher Education est aussi une institution, mais là, on vient d'avoir une présentation d'un classement peut-être d'un type nouveau, à la carte. On va y revenir dans le débat. Phil Beatty,
so,
first.
I think I should make clear from the beginning that I greatly respect Guéraud's work and I admire the project, and I think any project that is about giving more information in a more nuanced way is an inherently good thing. But I do have a whole list of concerns about multi-rank, which I think are important to raise as a part of the general discussion. One, I think, is that not as much of it is actually new than you may be led to believe. The Times Higher Education ranking has five broad categories. We have a knowledge transfer category. We have five indicators of the teaching environment. We do look at international activity of universities. Our website allows you to disaggregate the composite score and rank against five broad areas. Our free iPhone app allows you to manipulate the weightings and take a user-friendly approach. And I do think we should credit MultiRank for creating an environment where the more multifaceted way of looking at things is available. Also, the Thomson Reuters, who produce our data, allow detailed programs. Profiles to be accessed. Two, I think a really important element is that public funding and government-backed rankings are inherently a negative force. I think private sector rankings can be ignored. The multifaceted nature of the rankings, it means you can pick and choose what you want, but I think when you give government backing and taxpayer backing to a ranking, it assumes a level of authority, it assumes a level of prominence within the higher education system, which might actually drive behavior and be seen as an official version of a ranking. Three, I think there's a very significant burden on universities, the data collection, very onerous. It's good that they want this level of detail, but the actual demands on the institutions to provide this information is very onerous, presumably take more time and more resources off universities. Three, I think there is a credibility issue. If you're seeking to judge all universities against all aspects of performance, whether they're regional teaching institutions, local entrepreneurial institutions, or large comprehensive research institutions, you need 20,000. There's 20,000 universities in the world, higher education institutions. If, like Times Higher Education, you're looking only at research-intensive world-class universities, we have a population of about 800, 900 in our database. We rank at top 400 and we stop at 400 because they're comparing similar institutions. If you want to literally judge all institutions against all types of excellence, and it's correct, Guéraud's absolutely right, there are many different types of excellence, many different metrics should be used to capture different aspects of performance. But really, you're going to need a database of the entire world population of higher education, 20,000 institutions. Plus, there have been some boycotts. The League of European Research Institutions have chosen not to be involved. They think it's a burden. They think it's a problem. The UK International Unit has advised British universities not to take part. And I think the other thing which is actually really significant is it not just going to be another ranking? There's a human instinct. You can create rankings from this project, and yes, they're bespoke, but does it really get away from the fact that people will use the data to create hierarchical lists? So I think, although I genuinely do admire it, and I do think it's good for the sector to have more data available, I do think there are some significant challenges with it. And just one thing, there was a House of Lords in the UK, I know not exactly known for embracing the European agenda in the UK, but the House of Lords had an inquiry into this multi-rank as part of the modernisation agenda. And Baroness Young of Hornsey, who runs the House of Lords European Commission, said that actually they think that it's not a good use of taxpayers' money. She said existing rankings which depend on multiple indicators, such as the Times Higher Education World University Ranking, can make a valuable contribution to assessing the relative merits of universities around the world. So although I support more data, more information, I do think multi-rank has a series of challenges and obstacles and some issues around it becoming a default official government-led ranking. And you know, higher education thrives in many countries on autonomy, on academic freedom, and I think that's a challenge.
Je ne suis pas certain, ça reste un défi. Alors peut-être répondre Gero Federkel sur toutes ces attaques, tous azimuts. Peut-être Sophie Béjean, vous pourriez nous expliquer comment vous avez essayé d'adapter les critères de U-Multirank pour la France, puisque chaque pays a fait un travail d'adaptation des critères pour ses propres établissements.
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la France a fait un choix qui est un choix fort et assumé, puisque les conférences d'établissement, la CPU en premier lieu, mais aussi les autres conférences d'établissement et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont décidé d'entrer dans le projet U-Multirank en créant un outil d'information qui a vocation à produire effectivement les mêmes grandes dimensions que U-Multirank et selon les mêmes principes que U-Multirank, c'est-à-dire avec l'idée que cet outil d'information est personnalisable par les usagers et en particulier les étudiants. Et ce choix, c'est un choix qui a été assumé et volontaire et qui a amené l'opérateur qui a été mandaté pour le faire, qui est l'OST, l'Observatoire des sciences et techniques, toute l'équipe est là, la directrice, la chef de projet, donc mandaté l'OST pour travailler étroitement avec le CHE, avec l'équipe de Guéraud, et pour conduire le projet avec des adaptations qui permettront de tenir compte des spécificités, peut-être culturelles aussi, et des attentes du public et des établissements français. Alors, je pense qu'il faut bien préciser ça, parce que si ce choix a été fait, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je pense qu'il y a une vraie attente des étudiants, du grand public aussi, mais aussi des établissements, de l'ensemble des établissements, des écoles, des universités, de rentrer dans un processus de transparence de l'information, de rentrer dans un processus qui est aussi de qualité, de démarche qualité pour les établissements, et ça passe y compris par la capacité à dire quel type d'établissement on est, quelle discipline on offre, avec quel service pour les étudiants, avec quel environnement en matière de recherche, de transfert, et ce choix-là, il est assumé. Il est assumé, en même temps, c'est un processus qui est expérimental pour l'instant et qui est donc de ce fait forcément complexe, parce que quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a des adaptations, il y a une organisation à mettre en place, il y a un calendrier à mettre en place. Donc on est dans un processus expérimental. Mais quand même, la volonté était très forte. Alors elle était à la fois institutionnelle, mais elle se voit à travers quelque chose qui est très fort, c'est le nombre d'établissements qui ont souhaité rentrer dans le processus. Et c'était sur la base du volontariat. Et pour vous donner donc le chiffre, au départ, 134 établissements, dont 42 universités, étaient volontaires pour participer à l'expérimentation et à la construction de cet outil de caractérisation des établissements d'enseignement supérieur. Et il faut aussi souligner que 11 presses, les futurs communes, étaient aussi volontaires. Communauté d'universités et d'établissements. Donc, en tout cas, voilà, 11 groupements d'établissements étaient volontaires aussi pour entrer dans le processus au départ. Alors, comme c'est expérimental et qu'il y a trois types d'enquêtes, à l'arrivée, le nombre d'établissements qui ont été jusqu'au bout du processus pour cette première phase expérimentale est évidemment moins important, mais quand même, ça souligne une très forte adhésion à la démarche, à la finalité de cet outil. Et s'il y a des critiques qui sont naturelles dans une phase expérimentale, en fait, elles sont liées au processus et au calendrier, mais certainement pas à la finalité. Autre chose que je voudrais dire à propos de la finalité de cet outil, et de l'intérêt de s'inscrire dans la démarche de Multirank, c'est quand même les attentes des étudiants. Pour la France, on a mis en place un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il y a à la fois les conférences d'établissement, la CPU, mais il y a aussi les acteurs institutionnels qui sont experts en matière de production des données, et notamment de données sur les services aux étudiants, la vie étudiante, la formation, mais aussi la recherche. Et dans le comité de pilotage, il y a toutes les organisations étudiantes. Toutes les organisations étudiantes. Il se trouve que depuis qu'on a démarré Multirank, la ministre m'a aussi confié le soin de présider le comité pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Nous avons auditionné toutes les organisations étudiantes il y a quelques jours maintenant, et je peux vous dire que la demande de toutes les organisations étudiantes, sans exception, c'est d'avoir des outils d'information sur les formations, les établissements, l'environnement, la qualité des formations, les services offerts aux étudiants, l'appui à la recherche, l'environnement scientifique, les liens avec le monde socio-économique. Bref, tous ces éléments qui sont en fait très attendus. Puis bien sûr aussi des éléments en termes de qualité, l'insertion professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans l'outil qu'on est en train d'élaborer pour la France, spécificité par rapport à Multirank? C'est des spécificités déjà liées au choix des disciplines, parce que nous souhaitions que les établissements qui sont plutôt qui ont des spécialités en sciences humaines et sociales, mais que les disciplines de sciences humaines et sociales, d'une manière générale, puissent se reconnaître et éventuellement se tester dans le processus. Et donc, on a choisi d'inclure une discipline de SHS, de sciences humaines et sociales, qui est la sociologie. Notre spécificité qui est liée aux sciences de l'ingénieur, puisque les écoles d'ingénieurs en France ont souhaité qu'on ne distingue pas les différentes disciplines de sciences de l'ingénieur. Ça, c'est un choix sur l'expérimentation, c'est de pouvoir avoir une palette de disciplines qui intègre mieux à la fois les SHS et puis la spécificité des écoles d'ingénieurs françaises. Un autre... Oui.
Les quatre disciplines, les quatre, j'ose pas dire classement, mais qui paraîtront le 13, là, dont Guéro a parlé. Il n'y avait pas la sociologie, là. Il y avait
alors, dans business. Le projet européen, il n'y a pas la sociologie. Il y a business, physique, génie électrique, génie mécanique voilà. Pour le projet français, il y a en plus la sociologie et le regroupement de génie électrique et génie mécanique en sciences de l'ingénieur. Il y en aura quatre aussi,
mais un petit peu
différentes. L'autre point, c'est que je pense qu'en France, la culture en France, c'est quand même d'accorder du poids aux données, je dirais, factuelles, je ne sais pas si c'est le mot bien adapté, mais disons en tout cas objectivées et partagées et validées dans un processus à la fois méthodologique et de collecte des données qui donne une indication sur la qualité de ces données et sur le fait que ce sont non pas des données de réputation, non pas seulement des données de satisfaction, mais aussi des données quantitatives, mesurées, mesurables, objectivables. Et donc là, il y a un processus qui a été mis en place avec les établissements et le ministère de l'Enseignement supérieur, en particulier le CIES, qui est le service de production des statistiques et des indicateurs, pour que ces données-là aient une place importante dans les données qui seront collectées et rendues publiques et accessibles aux étudiants, comme aux autres usagers ou aux établissements en particulier. Donc ça, c'est un point de spécificité aussi pour la France. Et puis l'autre point, c'est que les étudiants et les organisations étudiantes, je vous ai dit qu'ils étaient très impliqués et parties prenantes dans cette affaire, ont souhaité que soient ajoutés des indicateurs liés à la vie étudiante, à l'aide sociale, à l'accueil des étudiants handicapés, des données d'insertion professionnelle également, et des données d'insertion professionnelle contextualisées, parce que évidemment, selon la zone géographique, la discipline, le secteur d'activité économique, la qualité de l'insertion professionnelle, elle ne se mesure pas en qualité, elle se mesure relativement à cela. Et donc, contextualiser les données d'insertion professionnelle, c'est évidemment un point fort. Donc, il y a à la fois un travail qui a été fait, qui est en cours, qui se prolongera au-delà de cette phase expérimentale, avec les organisations étudiantes, mais aussi un travail avec à la fois les établissements et les services dans les établissements qui sont impliqués dans la production des données et des indicateurs, c'est souvent les services de pilotage ou les services d'enquête de vie étudiante dans les établissements qui sont associés au processus en France et qui ont participé notamment à un séminaire de retour d'expérience de la première vague d'enquête il y a le mois dernier. Et c'est tout à fait intéressant aussi de le faire de cette manière-là, parce qu'on a un processus collaboratif avec les établissements qui s'est mis en place, qui va se prolonger et qui fera aussi que la base de données qui sera produite, elle sera partagée par l'ensemble des parties prenantes et en premier lieu par ceux qui produisent ces informations.
Je disais que vous étiez déjà dans le chaudron un peu sur ces questions de classement. Pour les business schools, c'est un enjeu considérable sur le recrutement des étudiants et sur l'image et l'insertion professionnelle de vos diplômés. Alors justement, quel est votre regard à la fois sur le Times Higher Education qui fait des classements aussi sur la réputation. Ce que vient d'annoncer et de présenter Gero Federkel, c'est-à-dire ce classement à la carte interactif où l'étudiant tout compte fait va pouvoir faire un peu ses courses. Quel est votre sentiment par rapport à ces présentations ? Et le débat peut-être aussi qui nous permettra de poursuivre sur les classements un peu officiels et les classements faits par le privé et les médias.
Oui, peut-être en commençant par votre dernière question pour aller du général au particulier. Chacun est bien conscient que la question des classements est une question centrale et fondamentale. On peut même, si on veut aller vers le très général, se dire que finalement aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est le sujet central de tout pays, aussi bien comme pour la vitalité du pays que en tant que moteur économique. Que la régulation de ce domaine se fait notamment par les classements et que donc ce qui se passe en matière de classement en réalité est au bout du bout peut-être un des tout premiers enjeux de politique au sens fort de ce terme dans le monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas une petite question, y compris si on a une approche de l'enseignement supérieur et de la recherche sous l'angle économique. En tant que secteur économique en expansion, c'est parfois dans certains pays le premier secteur économique en expansion. La question du classement est donc pas du tout une question marginal, et donc quel que soit le jugement moral, technique que l'on porte sur les classements, on ne peut que reconnaître que le sujet est crucial. À partir de là, pour une école comme l'ESSEC, ce qui est objectivement vrai devient subjectivement absolu. Autrement dit, on a absolument besoin de tenir compte des classements, quelle que soit la critique que l'on fait des classements. C'est-à-dire que même si vous... Si vous courez le Tour de France et que vous vous rendez compte que votre vélo, qu'on met des bâtons dans vos roues, dans votre vélo, même si vous n'êtes pas content, vous continuez quand même à courir parce que vous n'allez pas vous mettre à faire d'autres sports en plein milieu du Tour de France. Donc on a des règles du jeu, elles valent ce qu'elles valent, mais on est obligé de jouer ces règles du jeu. À partir de là, ces règles ne sont pas statiques. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un moment du temps, on est un peu au milieu du guet, un moment du temps où on voit bien que d'abord, si on regarde 10 ans en arrière, énormément de choses se sont passées en 10 ans en la matière et se sont en quelque sorte imposées à nous, créant une forme de régulation avec des effets très positifs et des effets très négatifs. Et il faut vraiment faire la part des choses là-dessus. Et que donc, sur les 10 prochaines années, il va encore se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et de ce point de vue-là, je regarde avec beaucoup de curiosité ce qui va se passer avec You Multirank. Nous, on a joué le jeu, on a répondu, on est dedans, enfin, on va, j'espère.
C'était pour faire dire à Gero Federkel un peu les...
En tout cas, on a répondu, comme on répond à d'autres classements. On est désormais, comme beaucoup d'institutions, outillés pour cela. C'est devenu une fonction importante, comme une sorte de modernisation des fonctions statistiques qu'il y a dans toute une institution d'enseignement supérieur. Et on regarde ça avec beaucoup de curiosité parce que il y a quand même plusieurs enjeux qui ont été mentionnés, qu'il faut en effet souligner. Bon, d'abord celui que vous venez de mentionner, c'est-à-dire finalement on a un classement venu de la puissance publique. Donc là, il y a effectivement un véritable débat à avoir sur les classements venus des journaux en particulier et puis ceux venus de la puissance publique. Mais c'est vrai que j'adhère assez à l'argument consistant à dire que puisque les classements eux-mêmes stimulent la compétition entre les écoles, il est normal qu'on stimule aussi la compétition entre les classements. Il m'arrive parfois de rêver de publier un classement des classements avec mon école pour qu'il y ait un petit peu de symétrie dans le jeu. Mais en tout état de cause, il est bien normal que tout ceci se passe dans une certaine compétition. Donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est normal. Que ce soit l'Europe qui le fasse, je pense que c'est bien parce que il est bon que ce soit une puissance publique supranationale qui le fasse, parce que ça donne peut-être de plus grandes garanties encore d'objectivité. En tout cas, c'est ce que l'avenir nous dira, mais c'est un point intéressant. Enfin, la logique multicritère adoptée me paraît intéressante pour avoir une approche un petit peu globale des questions et en même temps être capable d'avoir une approche particulière. Ce qui fait que par rapport à ce qu'a dit Phil Batty, je me demande s'il y a une véritable contradiction, parce que il est normal qu'on ait d'une part des classements assez hiérarchisants sur des domaines particuliers, par exemple les meilleures universités technologiques mondiales, les meilleures business schools mondiales, la réputation, et puis après des sujets comme par exemple on a des classements maintenant sur l'usage des réseaux sociaux par les institutions d'enseignement supérieur, et puis que par ailleurs on ait une capacité à avoir une vision globale. Donc je pense que voilà, ça fait un acteur très important nouveau dans le système et que a priori c'est plutôt une bonne chose en soi.
La légitimité d'un pouvoir public, d'une puissance publique à lancer un classement, enfin un classement qui n'est pas vraiment un classement mais qui contient quand même sa propre subjectivité, vous paraît, ne vous gêne pas. Enfin, pour vous, c'est légitime et qu'il y ait un nouvel acteur dans le jeu, c'est mieux que s'il n'y était pas.
Il me semble que le portrait robot du meilleur acteur, c'est un acteur indépendant et ayant les moyens et l'ampleur pour assumer cette indépendance, à la fois les moyens techniques et les moyens institutionnels de cette indépendance. Donc, ce qui a été utilisé pour une multirank me paraît correspondre à assez bien à ce portrait robot. On pourrait imaginer aussi que l'ONU fasse quelque chose de ce type. Parce que je pense que c'est intéressant de voir dans quelle mesure on arrive un peu à
les organisations de l'ONU font des classements sur les critères dans les pays en dehors de l'éducation.
Et puis on voit bien qu'il y a... J'ai commencé en mentionnant des enjeux qui sont pratiquement des enjeux presque de science politique par rapport au pouvoir que ça représente de classer. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des zones entières du monde qui sont un peu dans l'ombre. Si je regarde par exemple moi qui regarde un peu l'Amérique latine, voire beaucoup, les universités d'Amérique latine sont apparaissent presque pas dans les classements de Shanghai ou dans le classement du Times Higher Education. Elles sont très peu nombreuses et on a parfois le sentiment d'une sorte de périphérisation de certaines parties du monde, parfois même de l'Europe du Sud, qui posent questions, qui posent des questions qui sont intéressantes à approfondir. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du gué, parce que je pense qu'on est loin d'être dans une situation parfaite et que ça va sans doute s'améliorer par le jeu de la compétition dans les temps à venir.
Phil Batty, vous avez utilisé le mot d'autorité, si j'ai bien compris, quand vous avez parlé des pouvoirs publics et de leur légitimité ou pas à créer un outil qui ressemblerait à un classement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est votre côté britannique qui n'aime pas trop tout ce qui est état.
I mean, I think there's a very important aspect. If you look at the world's leading universities, most of them do actually have autonomy and academic freedom at the absolute heart of what they do. If you look at Harvard and Princeton, and you look at Oxford and Cambridge. And I know, obviously, in Europe, there's a different culture in terms of the state's involvement versus the autonomous nature of universities. But I think there is something fundamentally worrying. The point about rankings is that all rankings have a very serious responsibility around the perverse incentives. They drive behavior, they lead institutions to chase ranking metrics instead of going to the heart of their missions. And of course, multi-rank is designed to reduce a lot of this by having multiple indicators, multiple mashups and different rankings and different lists. But for me, fundamentally, the minute there's a sort of government authority, public body saying this is, we've funded it, we've created this, it, even if it's by accident, even if it's by the way people behave and naturally react to these things, it becomes by default the sort of official authority. There was Malcolm Grant, the head of University College London, one of the leading universities in the world. He talked about, you know, the perverse incentives of all rankings. And he said, once a ranking system is funded by government, it has an official status and is bound to have an even more distorting influence. And the international unit representing all of the higher education sector in the UK said that public funding lends legitimacy. And even if there's a million caveats saying it's not going to drive funding decisions, it's not going to do X, it's not going to do Y, I think the natural behaviour of the sector is to think it has these particular indicators, this particular data has a certain kind of function. I think that's why I welcome more data into the landscape, and I welcome multi-rank actually putting more information out there. But I just think that creates an extra layer of authority that may be even more worrying for the autonomy of universities to pursue their own.
On a envie d'entendre Guillaume Federghel sur ça, mais juste avant, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, Phil, je vous laisse remettre votre traduction, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous-même avez une autorité et que vous avez aussi imposé une forme d'université au travers de vos critères qui font qu'il n'y a qu'une... certains modèles qui peut figurer dans la top list et que quelque part c'est aussi une forme de impérialisme, on pourrait dire.
Libéral. I think Gero is absolutely right. The different types of universities need different metrics to recognize their strengths. So I completely agree with that. If you're a specialist at a national level in providing social mobility, that's something to be celebrated. That is something excellent. And it's great if we can find metrics to recognize and reward that. If you're creating extremely important skills for your local jobs market, all great aspects of a university, if we can get metrics, brilliant. The Times Higher Education ranking is explicitly about a certain type of university, the world-class research-intensive university.
Il s'appelle comme ça? Is the name of the ranking the best research-intensive?
C'est comme ça que vous l'appelez dans le dossier? Or is it just the global university
ranking? Well, we call them the world university rankings, but I think we're very clear in the methodology that how we put it together. And I think we say, like, we will never... The fact that we stop ranking at 400, there's probably a population of around 500 universities in the world that have the sufficient research output in the world's leading journals, you know, like the Leiden ranking of research universities. We stop at 400. So I think what's very irresponsible, and you see world rankings doing this, going to 700, to 800, to 900, that is stupid. I think that's ridiculous, because it suggests that every university should be judged on one long, long list. And if you're 800th in the world, if you try and be a tiny bit more like Harvard, you might be 700th in the world. I think that is silly. But Times High says it's world-class research universities. They may have different governance, different funding, different cultures, but they're all pushing the boundaries of knowledge. They're all publishing world-leading research in world-class research journals. They're all hiring faculty on a global level. They're all hiring students on a global level, and they're right to be compared to one another. And the key thing with Times Higher, we've been doing this for 10 years, but in 2009, we had a massive review. We tore up the old system. We rejected our old data providers, QS. And we had 10 months of open consultation. We had an advisory group of 50 people. We didn't just impose a model. We said, these are the aspects we think are fundamental to a university, teaching, research, knowledge transfer. If you're a global university, your global outlook, how do we capture that? What metrics do you want? We had surveys, we had open debates. So we serve the community, and they told us the metrics they want and value. And many of them are the same as multi-rank, a lot of the same indicators.
Guéraud, sur le coût et puis le côté autorité publique.
So, okay, I don't want to start into the discussion about the relation of the UK to the European Union. So I leave it to you if the European Union Council of the House of Lords is the best witness against the European initiative. But I don't, I see your argument, but I do not really agree with your argument on the negative effects of a ranking that has some as a public funding. Is that this will become some authority? I think on the one hand, the Commission made clear from the beginning that this will not be the Commission or the European Union ranking. This will be a ranking produced by Umultirank, which has been initiated and funded by the Commission. And I think one important aspect is the stimulus. The original funding is coming as indeed from the Commission,
stimulus, donc
but this is for a maximum 4 years period, and one of the tasks of us in this project is to develop a sustainable business model to run the whole initiative without European money.
So sans,
and I think we see that also public, also private ranking initiatives can have such an authority, and they have an impact. And we see that they have a lot of negative impacts and effects. I mentioned those impacts on exchange, national exchange and immigration policies. In my view, these are perverse effects of ranking.
Privately funded.
So they have the same, they have this kind of relevance, I think, independent of their funding mechanisms. And in my view, I think those rankings that produce those simple league tables, they are more vulnerable to political misuse than a ranking which does not come up with a number one and a number 200. This is not so much an issue of funding, but of methodology. The multi-rank. I argued in Germany to the ministers, I said, well, you know, the CHE ranking has a similar approach as that. Well, fortunately, the CHE ranking is complex enough to prevent politicians from using it.
And I think this will be similar with the multi-rank.
So it will be very difficult to base any political or funding decisions on your multi-rank if a university ranks high on this indicator in that field and not so high on another indicator in another field.
On pourra pas se baser sur le classement much more vulnerable to those effects, alors que les classements 1, 2, 3, 4, 5 peuvent être utilisés à mauvais escient, notamment par les politiques et pour les politiques de financement.
Oui, alors je pense que peut-être pour avancer sur ces questions de débat et puis sur la position de la... Enfin, les choix qui ont été faits pour la France par rapport au multi-rank. D'abord, je ne saurais que trop conseiller, y compris à Jean-Michel Blanquer, qui appelait de ses voeux une étude de comparaison des classements entre eux. Donc, je vous conseille la lecture d'un article à paraître, excellent article de Ghislaine Filiatro et Philippe Vidal, qui précisément compare les atouts, les inconvénients et ce que ça produit comme résultat, la comparaison de ces classements. Parce que, évidemment, dès qu'on a...
Apparaître dans AEF.
Il y aura une interview, on négociera. En tout cas, bon, c'est évidemment intéressant de regarder ce que ça produit. Et les différents classements vont produire une vision du monde universitaire des établissements qui seront différents. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est que à l'heure de l'open data, enfin bon, voilà, qui arrive, la transparence des données, la transparence des méthodologies, l'accès à cela pour tous, me paraissent comme des horizons incontournables. Et à cet égard, il me semble que la démarche qui a été retenue avec Humultirank est assez intéressante parce que il s'agit bien de donner cet accès à tous et en particulier aux étudiants qui en sont demandeurs. Une autre remarque, c'est l'évolution de la mobilité internationale des étudiants. Je pense qu'elle
qui est une des raisons de Humultirank.
Oui, qui est une des raisons et qui se transforme et qui n'est plus seulement celle des élites ou celle de ceux qui veulent accéder.
Des initiés.
Oui, des initiés, de ceux qui veulent accéder aux meilleurs établissements de recherche, par exemple. C'est une mobilité qui va donner une expérience pour tous les étudiants, enfin, en tout cas, pour une part croissante et qui croît très vite. Et donc, pour eux, pour voilà, ces futurs étudiants en mobilité, il y a aussi besoin d'une palette d'informations assez vaste et qui permettent à tous de se faire une idée du profil des établissements, de leur qualité, de les services dont ils pourront bénéficier, etc. Donc moi, je pense que ça, Humultirank aussi répond à ça. Et le fait que la France soit entrée dans le processus avec le projet CRS, c'est à la fois pour informer les étudiants en France, certes, mais c'est aussi pour informer les étudiants étrangers qui voudraient venir en France et les étudiants français qui voilà, s'inscrire dans un processus international. Et puis derrière... Oui.
C'est peut-être ce qui différencie aussi Humultirank du classement du Times Higher Education, où Phil Betty était à Tokyo, il était à Shanghai. Il y a un aspect mondial, avec aussi la langue anglaise du Times Higher Education, l'histoire britannique, qui fait qu'il y a la question de l'attractivité des étudiants asiatiques, africains, etc., qui n'est peut-être pas le même niveau aussi aujourd'hui de Humultirank, qui est plus sur la mobilité intra, dans un premier temps, en tout cas, intra-européenne.
Enfin, il a une vocation, je ne réponds pas pour Guéraud, mais je sais quand même que la vocation est internationale et pas seulement européenne. Donc, c'est d'informer les étudiants dans le monde, et il y a des pays au-delà des frontières européennes qui sont associés au projet. Alors, la dernière remarque, c'est l'équilibre entre la part institutionnelle et l'autorité publique et la part des acteurs du marché. Bon, peut-être que c'est spécifique à la France et à l'Europe, mais je trouve que là aussi, le fait qu'il y ait une incitation qui soit donnée par la Commission européenne comme processus de construction d'un nouveau projet, qu'il y a un mode collaboratif et qu'en France, et on était très attentif à ça, à la fois dans la relation avec les partenaires européens, le CHE, le CHEPS, mais aussi à l'intérieur de la France, c'est-à-dire mode collaboratif avec les établissements, avec toutes les parties prenantes, avec les établissements français, avec les organisations étudiantes, avec le ministère. Ben, voilà, ça, ce mode d'élaboration d'un projet d'intérêt général, me semble-t-il, c'est aussi un endroit où on place dans le curseur qui n'est ni complètement le marché, ni complètement public. La base de données qui sera produite, le site qui sera mis en ligne par Humultirank au mois de mai, qui a vocation, bien sûr, à être plus complet, etc., dans les phases ultérieures, sera pas sous l'autorité de, et pour autant, il y aura eu ce processus collaboratif qui me paraît vraiment intéressant comme étant une caractéristique tout à fait adaptée à la culture européenne. Merci. Peut-être.
Juste, Jean-Michel, Sophie Béjean, juste pour avoir les chiffres du nombre d'établissements français qui participeront à la première version là en mai. Vous avez dit au début, il y en avait 120, dont 40 universités.
Alors, le volontaire, 134 établissements au total, dont 42 universités. Alors, il y a différentes enquêtes. Il y a une enquête plus sur des données institutionnelles, une qui est plus sur des données liées à la discipline, donc à chacune des disciplines retenues, et puis les enquêtes auprès des étudiants. Alors, pour vous dire, les deux premières enquêtes institutionnelles et par discipline, il y a respectivement 85 et 71 établissements qui ont répondu. C'était donc un taux de réponse quand même très fort, hein, par rapport à la volonté d'entrer dans le processus. Et ceux qui ont pu mettre en œuvre l'enquête étudiant dans les délais qui étaient un peu serrés, il faut bien l'avouer. Mais bon, c'est que la première phase. Hein. On espère bien qu'on tirera des enseignements de cette première phase. Il y a 26 établissements voilà, qui ont
répondu.
Et
on peut savoir s'il y a une majorité d'universités ou d'écoles ?
Alors, très clairement, ce que disait Jean-Michel Blanquer, je crois, tout à l'heure, est assez significatif. Les écoles sont plus habituées à être dans ce processus-là. Et les données qu'il s'agissait de produire n'étaient pas des données existantes préalablement dans les universités. C'est-à-dire qu'il s'agissait de reconstruire des périmètres pour que ce soit comparable avec les données des autres pays européens. Et donc, il y a une construction et une élaboration qui étaient moins préparés dans les universités. Donc la proportion d'universités est moins grande. Mais ils sont très impliqués et notamment ils restent dans le processus collaboratif. Et ils sont venus, les universités étaient présentes par exemple dans le séminaire, enfin l'atelier, le méthodo, retour d'expérience qu'on a mis en place, parce que s'ils n'ont pas pu faire remplir et mettre en œuvre l'enquête étudiant cette fois-ci, notamment pour des raisons de calendrier, et parce que l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante en France, lance aussi des enquêtes auprès des étudiants, donc il y avait un petit conflit de date et d'agenda. Pour autant, les universités étaient présentes à cet atelier parce qu'elles veulent continuer et rentrer dans le processus. Donc il y a une démarche qui est lancée. Moi, je suis convaincue qu'elle se prolongera. Ça fait partie des attentes des étudiants, ça fait partie des attentes des établissements pour faire connaître ce qu'ils sont dans toutes leurs dimensions. Et donc, voilà, je crois vraiment à ce projet qui connaîtra des critiques, bien sûr, qui, dans sa phase expérimentale, a quelques balbutiements, mais ce n'est pas un problème, en fait.
Merci. Avant qu'on va passer aux questions avec la salle, donc vous allez reprendre la parole, mais on va demander qui veut intervenir dans la salle. Puis on demandera quand même tout à l'heure à Phil Beatty qui nous explique pourquoi la France disparaît un peu des écrans radars dans le dernier classement du Time Higher Education. On verra si elle disparaît des écrans radars le 13 mai sur U-Multirank. Qui veut poser une question ? Vous vous présentez, merci.
Alors, bonjour, Ludovic de Courtivron, chargé d'insertion professionnelle à l'Université Paris Diderot. Et ma question s'adresse à Guéraud, donc merci pour votre présentation. Je me demandais simplement, pour un simple étudiant, d'avoir une telle quantité d'informations, c'est déjà très précieux d'avoir autant d'informations sur toutes les universités, mais pour un étudiant qui a besoin peut-être d'un outil aussi d'aide à la prise de décision, est-ce qu'il est prévu une forme de vulgarisation ou de lecture un peu plus simple du... Alors, je ne sais pas avec lequel je... Okay. Est-ce qu'il est prévu un degré de lecture peut-être plus accessible pour un public non initié avec le degré d'information et de data que vous allez collecter, en fait?
Yeah, thank you very much for this question.
Merci beaucoup.
It's a pity that I could not show the draft web tool already. So there will be a special drag U multirank for students,
which will be in a way
tries to reduce the complexity of information complex institutions like universities.
To a certain degree,
it will be simpler mapping procedures, or they just have to answer a few questions on which type of institutions they would like to study, very reduced compared to the full mapping track, and then there will be a special pre-selection of default indicators. Which are particularly interesting for students focusing on teaching and learning. And there are two European student organizations which are involved in the process of developing this the whole system and the web tool, the European Student Union, ISU and HE. And we discussed this with them and they already gave their feedback on the web tool from their particular student perspective. And this was very helpful for us. We know that there is, of course, there is some kind of dilemma if you want
il y a un petit dilemme. Est-ce que l'on veut fournir un système élaboré de choix et d'informations et d'un autre côté, on veut garder un système assez simple. Et donc, il faut bien entendu trouver un équilibre entre les deux. Mais nous espérons avoir trouvé cet
équilibre. Just one quick point on the student consumer side. There was a nice piece, actually, Ben Wildowski, who's created the U.S. News and World Report rankings and now is an academic researcher who wrote something for us. Why do we rank schools and universities? To answer this question, we need to go far, far back into human history, to the caveman era. We must never forget that Homo sapiens is a tribal primate. We love pecking orders that help us understand who is up, who is down, and where we stand ourselves. This is why somewhere in the midst of time, rankings man was born. I think the point is that what people will do with multi-rank is create rankings, and they'll publish rankings, and then I think if it needs to take on a commercial self-sustaining element, it will become a ranking. There'll be official ranking lists. And I think the idea, in particular, I've spent some time this last week in Beijing and Tokyo and Seoul, and Chinese families, maybe with single children, with two generations of savings to send their child to the West for a great education, they're not going to look at a whole series of traffic lights and spots and say, oh, well, they're very good at that, they're very good at this. The families are going to say, we're spending six figures making a huge lifetime investment. I want my child to go to the best. And they want a clear, hierarchical, simple, accessible list. And as long as we're transparent about how the list is created and how it's put together, I think we're always going to keep falling back into this basic need for the simplicity and accountability of a list.
Il y a besoin d'avoir des listes simples, faciles à lire.
J'ai une question à Jean-Michel Blanquer. En fait, on a beaucoup parlé des disciplines, des réputations d'établissement. Donc, d'un côté, une partie du tout. De l'autre côté, le global. D'ailleurs, la France disparaît des écrans radars du Times Higher Education. Vous êtes confronté à l'ESSEC, à des politiques de marque très fortes. Il y a le classement des MBA. Mais ce qui reste quand même dans l'opinion publique, dans l'inconscient collectif, c'est est-ce que HEC c'est meilleur que l'ESSEC ? On ne dit pas est-ce que le MBA de HEC, tout compte fait, on raisonne comme ça. Est-ce que ça vous paraît plausible demain qu'on ait la réputation des établissements sur simplement un aspect ? Harvard, par exemple, personne ne sait. On dit toujours Harvard, c'est la première université du monde. Bon, ça se trouve, il y a des choses lamentables à Harvard. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais on est dans des stratégies de marque. Hein, c'est un peu là comme les clubs de football, quoi. C'est, on retient l'ESSEC, on retient, et d'ailleurs il y a des universités présentes dans la salle qui commencent à développer en France des stratégies de marque. Je ne les citerai pas pour ne pas faire de jaloux, mais comment articuler les classements des parties avec les classements du tout ?
Oui, très bien. Pour vous répondre, je fais un petit détour sur un point, puisque vous venez de dire que les institutions françaises disparaissaient des classements de type Times Higher Education. C'est en partie vrai et heureusement en partie faux, c'est-à-dire puisque justement les business schools ne disparaissent pas des classements internationaux. Les business schools françaises sont au contraire dans les grands champions mondiaux. Pour commencer à répondre à votre question, si je pose la question quels sont les deux premiers masters en finance du monde selon le Financial Times, selon le Financial Times, mais c'est un concurrent privé. Et là, c'est deux masters français. Interrogez l'homme de la rue, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, et vous lui dites quel est le pays qui, à votre avis, a les deux premiers masters mondiaux en finance. Il y a très peu de chances pour qu'on vous dise la France. Donc, c'est déjà un début de réponse à votre question sur le tout et les parties, mais c'est déjà pour souligner aussi ce cas particulier des business schools dans les classements mondiaux. Et là, on pourrait faire plusieurs analyses, hein, y compris le fait que, justement, elles ont été, d'une certaine façon, dans la mondialisation avant la mondialisation et que ça crée une sorte de force dans cette situation. Mais il y a aussi un point qui n'est pas le seul, mais que je voudrais souligner par la même occasion, c'est la question des anciens. Parce que s'il y a bien un point de faiblesse des universités françaises qui peut se corriger dans le futur, c'est la question des anciens. Or, les anciens jouent un rôle très important pour les classements, puisque c'est eux qui répondent à certains interrogations, à certains questionnaires, d'une part, et d'autre part, pour la marque en général, les anciens portent énormément les choses. Et on sait bien que c'est un point, pour moi qui viens de l'université et qui arrive dans une grande école, on voit une différence gigantesque. Je pense que d'ailleurs, dans le cadre des travail qui va s'accomplir dans les communes où il y aura à la fois des grandes écoles et des universités. C'est un point de savoir-faire qui est une des pistes de progrès pour le futur. La... Mais sinon, ensuite, pour répondre plus directement à votre question, le... je crois que, que en effet, le... des réputations peuvent se bâtir sur des sous-ensembles de compétences d'une institution. C'est pas contradictoire avec le tout, hein. C'est-à-dire on va avoir les deux à la fois. On a déjà les deux à la fois, c'est-à-dire une réputation globale, typiquement Harvard, mais regardez la Sorbonne encore à cette réputation globale, quel que soit ce qu'on met derrière le mot Sorbonne. Et puis il y a les réputations précises, d'où l'importance de développer des domaines d'excellence que l'on va voir dans certains classements spécialisés ou qui vont tout simplement porter la marque. Et donc par exemple.
Donc, vive les classements différents.
Ah, je pense vive les classements différents. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir un seul classement et qu'il soit en plus un classement global. Ce serait absurde. On a besoin d'avoir des classements différents, de sans arrêt les mettre en perspective, de les voir évoluer. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu énormément d'évolutions dans les 10 dernières années et il va y avoir énormément d'évolutions dans les 10 prochaines années.
Pour savoir dans les business schools que le côté classement hiérarchique 1, 2, 3, 30, 40, 50 vous sert énormément dans votre marketing. C'est ça que vous mettez en avant et effectivement, je rejoins la préoccupation de simplicité de l'outil. Est-ce que vous pensez qu'avec un outil plus complexe comme UMultirank, on comprend la nécessité d'avoir un outil plus complexe parce que l'université est un objet complexe, mais en même temps, le besoin de l'étudiant, est-ce qu'il n'est pas plus basique? Est-ce que vous allez utiliser UMultirank dans votre communication?
Oui, mais sur ce point comme sur les précédents, je pense qu'il ne faut pas avoir un raisonnement binaire. Hein. C'est-à-dire, je pense, par exemple, ce n'est pas parce qu'on valorise le tout qu'on ne valorise pas les parties. Ce n'est pas parce qu'on parle des classements dans notre communication qu'on ne doit parler que des classements. Alors, je suis le premier, quand je parle de l'ESSEC, à certes parler des classements, mais certainement pas à parler que de ça, parce que je ne pense pas que les classements sont le sens de la vie, même si Homo sapiens est Homo classens, il y a aussi d'autres dimensions à faire valoir, et notamment, malgré tout, dans l'idée même d'université et d'enseignement supérieur, il y a l'idée de liberté, il y a l'idée de liberté intellectuelle, de développement de la liberté de l'étudiant. Donc cette dimension-là, elle est souvent très, très qualitative. Elle peut se mesurer dans des classements par l'opinion que les étudiants ont de cette dimension ou l'opinion que les professeurs ont de cela. Mais cette liberté ne se résout pas en équation mathématique. Donc il y a une dimension technique, mathématique, un peu semi-scientifique des classements qui existe, qui est un fait, qu'il faut sans arrêt améliorer, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Et puis, il y a une dimension qu'on pourrait appeler plus littéraire, plus qualitative, qui est irréductible et qu'il faut évidemment savoir faire valoir. Par exemple, dans le cas de l'ESSEC, je dis très volontiers, si vous êtes étudiant à l'ESSEC, il va vous arriver quelque chose hors du commun. Il ne va pas se passer la même chose qu'ailleurs. Et ça, ce n'est pas le classement qui va le dire. C'est l'expérience que vous allez vivre dans l'école. Et bien entendu, toute institution est en situation de pouvoir dire ça.
Bien, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, une question? Alors, j'ai demandé à Phil Betty, quel regard porte-t-il justement sur les établissements français qui l'a classé récemment sur la réputation, enfin, en interrogeant un panel hein, de décideurs académiques. Quel est votre regard sur le système français actuellement, justement?
I think there's a real irony.
Écoutez, je pense qu'il y a une certaine ironie.
France has actually
La France
weakened its global reputation in higher education by actually worrying too much about rankings.
Trop des classements.
I think the reforms that have been driven in part by
Sarkozy's
desire to see success in the Shanghai rankings, where big is beautiful, all these mergers and restructures, has actually potentially slightly damaged the perception of French universities because it's caused confusion. And there's a lack of clarity globally about the system and the structures and the brand names are very important. So you've got some of the most powerful names in intellectual history here in Paris. Some amazing legacy of wonderful legacies of learning and excellence in higher education. But actually, I think the reforms and the restructuring has potentially caused a little bit of harm, and there's confusion and there's bureaucratic confusion. And I think actually, in terms of global prestige, that's caused difficulty. So there's great irony that in chasing visibility in the Shanghai rankings, there's actually been a loss of some of that visibility. Just to conclude, I had the pleasure recently of visiting our world ranked number one university, the California Institute of Technology. And the one single thing that struck me more than anything else when I was trying to unpick the secrets of its success, why is it so successful, the single biggest thing was that it cared the least about its ranking. It had its mission, it stuck to its mission, it did it to the best of its ability. It happened to be extremely rich and extremely small, but its mission of intellectual free inquiry, uninhibited by a worry about metrics and a worry about publication output, was really refreshing. And I think it's almost slightly sad, I think, that the reforms here have been too focused on rankings and not enough on doing what you do very, very well from an outsider's perspective.
Jean-Michel Blanquer, on va vous demander un dernier mot avant pour conclure cette table ronde. Jean-Michel Blanquer.
Les derniers mots de Phil, justement, c'est-à-dire j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la liberté. Et en tant que chef d'un établissement, en tant que président d'université ou directeur d'école, ou quel que soit le nom que ça prend, en tant que responsable d'un établissement, je pense qu'une de nos responsabilités, c'est d'être un outil d'interface entre la question du classement et la question de la pression qui s'exerce en interne. Autrement dit, le classement, on doit, un peu comme pour une protection solaire, garder ce que ça a de bon pour stimuler le système et filtrer ce que ça a de mauvais pour le stress. Je pense qu'un bon professeur d'université du futur n'est pas quelqu'un qui est totalement guidé par la question des classements, d'autant qu'il y en a presque 365 par an, et que justement la liberté académique, la créativité intellectuelle, la façon d'être dans la transmission des savoirs, etc., tous ces enjeux majeurs de la vie de l'enseignement supérieur suppose un certain type de vie, un certain type de vie collective en particulier, qui fait que on ne doit pas être dans ces espèces de logiques de clubs de foot dans lesquels on est parfois aujourd'hui, d'aller chercher celui qui va publier 3 articles l'année prochaine dans une revue classée 0+ à tel endroit pour le payer le plus cher possible, le faire revenir, avec des personnes qui jouent ensuite un jeu très individualiste et non pas un jeu d'équipe, alors que justement la dimension collective va être toujours plus dans le futur, une dimension importante de la vie académique. Donc si on regarde les vrais enjeux presque éternels de la vie académique, c'est-à-dire à la fois la liberté personnelle, individuelle, mentale pour travailler, mais aussi la capacité à travailler en équipe pour la recherche, quelles que soient les disciplines dont on parle, ces deux éléments si importants pour après être de bonnes institutions sur le long terme supposent que l'on sache filtrer ce qu'il y a de positif dans les classements, garder donc ce qu'il y a de positif, et que l'institution en tant que telle sache faire la part des choses dans ce que ça suppose de stress ou de choses artificielles ou absurdes qui sont inévitables et qui sont sans doute des effets pervers qu'on aura toujours, même si on va les diminuer.
Merci. Sophie Béjean, quelques mots ?
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Blanquer. Peut-être un point de vue sur à la fois les universités plus spécifiquement en France et sur les étudiants. Je pense que, au-delà du paradoxe ou de l'ironie que soulignait Phil sur l'attachement dans la politique universitaire en France au classement, les universités se sont mises dans une démarche qui était d'amélioration, de modernisation, d'amélioration des services, de la qualité des services en formation comme en recherche d'ailleurs, comme dans le lien avec le monde socio-économique. Et à cet égard, les caractéristiques de Multirank et de CERES, son volet français, s'inscrivent, je crois, pleinement dans cette volonté des établissements et qu'on voit aussi par ailleurs dans d'autres positionnements des universités françaises. L'autre remarque que je voulais faire, c'est à propos des étudiants. Moi, je suis vraiment très sincèrement convaincue, et ce n'est pas seulement parce que je préside le CNUS, le Conseil national des œuvres universitaires et scolaires, que les étudiants sont des jeunes adultes qui ont envie d'être acteurs de leur devenir et de leurs décisions. Et qu'en faisant ce choix et en se positionnant comme tel, et je pense que les enquêtes les plus récentes, comme celle de la génération Quoi, qui m'a passionnée ces derniers jours, montrent ça. Et que, du coup, ce n'est pas forcément des outils simples dont ils ont besoin. Ils ont besoin aussi de pouvoir mettre en avant des indicateurs qui seront en phase avec les valeurs et avec les aspirations qui sont les leurs. Et à cet égard encore, je pense que CERES, Multirank, vont permettre ça. Et si on leur apporte en plus dans les établissements, dans les universités, une plus grande souplesse dans les parcours, etc., je crois qu'il y aura des évolutions qui seront appréciées très positivement par les étudiants à l'avenir.
Merci. Guéraud, un mot de conclusion ?
I also want to make strong the argument that we should not give too much attention
to
rankings.
Yes, rankings they can help to provide transparency.
At the moment, we hardly know the number of
universities
in Europe, but we hardly know anything about their profiles, their performance, and I think rankings can help to provide those kinds of information. And yes, rankings they can inform decision making for students. And I think better rankings with a more sophisticated approach can provide better information than simple rankings, although we have to
des informations supplémentaires, notamment des classements complexes, mais qu'il faut garder suffisamment simple pour qu'ils restent compréhensibles.
Rankings, they cannot give all answers to all questions in higher education.
Le classement ne répond
rankings
pas à toutes les réponses de l'enseignement supérieur. Le classement, c'est un outil qui permet de comparer des indicateurs numériques. Ça ne permet pas d'avoir des comparaisons
and then I think in particular
en profondeur.
To policy makers and to decision makers.
Donc notamment
ranking can
pour
help them to ask the right questions,
les
preneurs
de décision, ça peut permettre de poser des questions, mais ça ne permet pas d'avoir toutes les réponses. Il y a besoin davantage d'outils et un classement ne peut pas remplacer un système de vérification de qualité qui soit national ou régional.
And political decisions are not just
les décisions
looking
ne
on
peuvent
numbers.
Pas se baser sur
merci beaucoup.
Les chiffres
rendez-vous donc le 13 mai. Phil Betty, juste une dernière question. Quand le prochain classement du Times Higher Education, on part avec cette dernière information, c'est quand votre prochain classement?
Well, we actually have, we're taking Gero and Multirank's approach by offering multiple versions of rankings. I have to say, Gero and his team have raised the bar in terms of transparency and a multifaceted approach. So our next big ranking, we've just published the reputation rankings based on subjective reputation. Next one is the under 50 rankings, where on the 28th of April we're holding a conference in Miami, but on the 30th of April we're publishing the under 50 rankings. And because of the French reforms in the 70s, there are some really good technically under 50-year-old French universities. So French do very well in our next ranking on the 30th of May. But the main rankings will be the first week of October 2014, the World University Rankings top 100.
Okay. Et puis peut-être que nous, on va faire un classement des classements. En tout cas, on va réfléchir à ça. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je remercie vraiment nos intervenants d'être venus de loin pour venir nous présenter ça. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup.